Je voudrais saluer tous ceux à qui je n'ai pas eu le temps de dire un petit bonjour. Donc, recevez mes salutations en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons méditer ensemble la parole du Seigneur. Mais avant cela, si nous pouvons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous encourage. C'est toi qui vas nous parler maintenant, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Qui suis-je pour que je puisse me placer devant ce peuple pour qui toi tu as payé les grands prix à Golgotha? Mais par ta grâce, Seigneur, tu as voulu que je puisse être là ce matin. Que toi seul puisses parler et que moi je puisse m'effacer. Parce que moi je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur. Mais c'est toi qui es capable de parler à ton peuple et de toucher le cœur de qui que ce soit. Merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles, frères, sœurs et frères, et nous allons méditer ensemble dans le livre de Job, au chapitre 1, le verset 1 à 12. Pendant notre moment d'adoration, notre frère a dit que parmi les sujets pour lesquels nous devons bénir le Seigneur, nous devons aussi bénir le Seigneur pour les épreuves. Parce que à travers ces épreuves, nous nous rapprochons encore davantage de notre Seigneur. Et le thème de notre méditation ce matin, garder la foi malgré la souffrance. Garder la foi malgré la souffrance. Nous allons donc lire dans Job chapitre 1, verset 1 à 12. J'invite notre frère Ebi de venir devant pour m'aider à lire ce passage. Job chapitre 1, le verset 1 à 12.
Nous lisons la parole de Dieu. Job chapitre 1, verset 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ?» Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison ? Et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen.
Merci, frère. Je pense que c'est quelque chose que nous connaissons, nous avons déjà entendu parler de cette histoire. Mais bien aimé, le livre de Job dans son ensemble contient beaucoup d'enseignements qui nous encouragent et qui fortifient notre foi. Mais ce matin, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler seulement de quelques aspects, vraiment quelques aspects de la vie de Job. Bien-aimés, dans notre vie ici sur terre, ici-bas, pour chacun d'entre nous, personne ne peut choisir ses épreuves. Personne ne peut choisir ses souffrances. Sinon, moi, Marcel, je dirais, je préfère un peu qu'il puisse avoir la grippe et non la diarrhée. Ah, moi, je préfère avoir tout le temps de travail et non être au Pôle emploi. Personne ne peut choisir ses épreuves. Par contre, nous pourrons choisir la manière de réagir face à nos épreuves. Nous ne pouvons pas choisir nos épreuves, nos souffrances, mais nous pouvons choisir comment nous pouvons nous comporter pendant la souffrance, pendant les épreuves. Job n'avait pas choisi sa souffrance. Il n'a pas choisi sa souffrance, mais il a choisi comment réagir face à cette situation difficile. Alors, puisque nous ne pouvons pas choisir nos souffrances, nos épreuves, nous voulons alors ce matin nous poser cette question. Comment réagissons-nous face aux épreuves? Comment réagis-toi face aux épreuves? Parce que tu ne peux pas les choisir. Nous n'avons qu'une seule option. Comment réagir face à des situations difficiles? Dans la Bible, la plupart des prophètes de Dieu ont souffert à cause de leur foi, à cause de leur obéissance. Parmi eux, Job est cité comme un exemple de foi solide dans la manière dont il s'est comporté, dans la manière dont il a géré cette situation difficile. Job, dans sa vie, a traversé plusieurs étapes. Nous l'avons lu, il a eu des moments de bonheur, de calme, sans souffrance. La Bible le dit, il a eu des enfants, il a eu une grande famille, il a eu des richesses. La Bible le dit. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de ceux. Il était riche. En un mot, il était riche. Et c'est la situation que chacun de nous rêve peut-être, entre guillemets, ici sur terre. Il était riche. Il a connu des moments d'aisance, de calme, sans souffrance. Mais il a connu aussi des moments de souffrance. Parce que si nous continuons à lire les livres de Job, nous verrons que Job a perdu toutes ses richesses matérielles. Job a perdu cela. Il a perdu ses enfants. Et il a connu cette souffrance, la souffrance morale et physique aussi, parce qu'il a été attaqué dans sa propre chair par des maladies. Mais Job n'a pas seulement connu cela, mais à la fin, Job a connu des moments de prospérité renouvelée, des moments de bonheur renouvelés où Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Mais tout au long de sa vie, tout au long de ces moments de variation, de montée, descente, de haut et bas, Job est resté fidèle à son Dieu. Et il nous donne un exemple de courage et de persévérance, quelles que soient les circonstances de la vie. Vous savez, la souffrance peut toucher n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Ça, nous en sommes sûrs et certains. Mais la souffrance ou les épreuves peuvent être aussi de courte durée pour certains, tout comme cette souffrance peut être aussi de longue durée pour d'autres personnes. Mais ce que nous pouvons savoir aussi, que les épreuves ou la souffrance n'est pas nécessairement la conséquence ou le résultat d'un péché. Et ce fut le cas de Job. Dans certains milieux, il y a cette pensée qui circule. Ah, tu n'arrives pas à trouver du travail parce que tu as péché. Tu es tout le temps malade parce que tu as péché. C'est les conséquences de tes péchés. Tu n'arrives pas à faire ceci, c'est parce que tu as péché. Ton problème persiste et tu ne trouves pas de solution, c'est parce que tu as péché. Regarde ta vie, sonde bien ta vie, tu as péché. Mais ici, nous voyons que Job n'a pas péché, mais il a souffert. Donc la souffrance n'est pas nécessairement le résultat ou la conséquence d'un péché. Le frère l'a dit ce matin, que la souffrance met à l'épreuve notre foi en Dieu. Elle révèle la qualité de notre foi. Mais sachons aussi que pour le cas de Job, la Bible dit que la souffrance non seulement atteint les enfants de Dieu, mais elle est nécessaire parce qu'elle nous permet de nous rapprocher de Dieu. Le psaume 34, verset 20, dit ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, et l'Éternel l'en délivre toujours. Job est un exemple pour cela. Alors revenons à notre passage que nous avons lu, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Dans ce passage, nous voulons considérer trois aspects. Trois aspects, il y en a plusieurs, mais nous allons seulement considérer trois aspects avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier aspect, le premier point que nous allons considérer, c'est le regard de Dieu sur Job. Le regard de Dieu sur Job. Le deuxième aspect, Dieu connaît les intentions de Satan. Dieu connaît les intentions de Satan. Et le troisième point, Dieu contrôle toutes choses. Le regard de Dieu sur Job, Dieu connaît les intentions du diable ou de Satan, et Dieu contrôle toutes choses. Le premier point, le regard de Dieu sur Job. Nous nous posons beaucoup de questions sur la souffrance. Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Mais en lisant ce passage, nous voyons que Satan s'est posé aussi des questions sur Job. Nous nous posons des questions, mais Satan aussi, il s'est interrogé. Il a dit, mais il a posé des questions sur Job. Au verset 9, il nous est dit, quand Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Au verset 8 et au verset 9, Satan commence à poser des questions. Il s'est posé des questions aussi sur Job. Et Satan répondit, voilà la question qu'il pose à Dieu: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Voilà la question que Satan vous a dit. Voilà, mais oui. Toi, tu dis ceci, mais ne l'as-tu pas protégé? Parce que tu lui as donné de la richesse. Mais la réponse de Dieu, frère, c'est, pardon, la Bible répond à cette question à partir du premier verset. Et c'est Dieu lui-même qui répond. À cette question du diable et de Satan, la Bible répond déjà à partir du premier verset. Les premiers versets nous disent quoi? En réponse à la question de Satan, la Bible dit au verset 1, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Voilà la réponse de Dieu. Voilà ce que dit la Bible au verset 1 concernant Job. Ce verset dit quatre choses sur Job. Si nous lisons bien le premier verset, la Bible dit quatre choses sur Job. La première chose, que Job est intègre. La deuxième, Job est droit. La troisième, Job craint Dieu. Et la quatrième, il s'est détourné du mal. Voilà la description que la Bible fait de Job. En d'autres termes, la description que Dieu fait de Job avec ces quatre points. Il est intègre. Il est droit. Il ne supporte pas le mal et il craint Dieu. Mais la Bible, si nous comprenons bien, Job n'est pas intègre, c'est-à-dire irréprochable. Dans d'autres versions, c'est marqué irréprochable. Job n'est pas intègre du fait qu'il est riche. Non. C'est ce que le diable voulait faire croire. Job n'est pas intègre du fait qu'il est riche, mais il est intègre parce qu'il a un cœur qui aime Dieu. Et il est bon dans son cœur et il connaît Dieu. Voilà, ce n'est pas le fait qu'il est riche, qu'il est intègre. Non, c'est le contraire. Il aime Dieu, il craint Dieu et il a un cœur bon. C'est pour cela qu'il est intègre. De toute façon, plus loin, nous le verrons. Nous le verrons parce que la Bible dit, Job avait horreur de péché. Il savait que le sacrifice était nécessaire pour ôter les péchés. À l'époque, on faisait des sacrifices, des holocaustes, pour se purifier. Mais maintenant, c'est Christ qui s'est sacrifié une fois pour toutes. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, ça se passait comme ça. Il savait que le sacrifice était nécessaire pour ôter les péchés. Et la Bible dit, il offrait un holocauste pour chacun de ses enfants, bien qu'il ne savait pas s'ils avaient péché ou non. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous pouvons le lire au verset 4. Le verset 4 dit, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. » Le verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, qu'est-ce que faisait Job? Job appelait et sanctifiait ses fils. » Puisqu'il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voilà quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui avait horreur de péché, même pour ses fils. Et s'il faisait ça pour ses fils, mais et pour lui-même, c'est encore autre chose. Il dit, je ne vais pas savoir s'ils ont péché ou pas, mais quand même, je fais les sacrifices pour le pardon des péchés de mes enfants. Vous savez, Dieu lui-même rend témoignage à Job. Et il appelle même son serviteur. son serviteur. Le verset 8 nous dit, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Mon serviteur Job. Et il continue, il dit, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Voilà le regard que Dieu avait de Job. Le regard que Dieu avait de Job. Un homme intègre, l'Éternel lui-même le dit, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu interpelle Satan et lui dit s'il a remarqué Job. Et il en donne la raison. Dieu ne dit pas que cet homme est riche, que Job est riche. Dieu ne dit pas que cet homme fait des miracles en mon nom. Dieu ne dit pas que cet homme prêche la parole de Dieu ou ressuscite les morts en mon nom. Dieu ne dit pas qu'il a de grandes richesses ou une grande famille, rien de tout ça. Dieu ne dit pas ça. Dieu n'évoque même pas cet aspect-là. Tous ces aspects, Dieu ne l'évoque pas. Simplement le fait d'être irréprochable, juste, droit, aimant Dieu et se détournant du mal a été suffisant pour attirer le regard de Dieu sur lui. Le regard de Dieu sur Job était seulement attiré sur ces quatre aspects et non sur autre chose. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, les gens exposent leur recherche, leur savoir-faire et ils disent que voilà ce que Dieu fait de moi. Mais le regard de Dieu n'est pas sur ces choses-là. Le regard de Dieu n'est pas sur ces choses. Soyons des enfants de Dieu mûrs, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas emporter par des choses bizarres de ce monde où certaines personnes mettent en avant de leur spiritualité certaines choses de ce monde. Job n'a pas mis en avant ses richesses, ses connaissances. Nous ne devons pas mettre en avant nos richesses, nos connaissances ou notre beauté pour prouver notre spiritualité. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et c'est pour cela il dit que as-tu vu, as-tu remarqué Job? Et il donne la raison que c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. En aucune fois Dieu dit c'est un homme qui est riche, qui a beaucoup d'enfants, qui a une grande famille. Non, rien du tout. Devant Dieu, c'est le cœur qui compte. C'est ta conduite, c'est ta façon de marcher avec le Seigneur. C'est ce que Dieu voit et non le contraire. Job fait partie des hommes dont Dieu considère comme des justes exemplaires. Je ne sais pas si vous en comprenez. Donc des justes, donc des gens qui sont justes et qui sont pour nous des exemples à suivre. Si nous lisons dans... Ne cherchez pas, je vais lire pour vous. Si nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 14, versets 13 à 14, écoutez ce que la Bible dit. Ézéchiel 14, 13 à 14, à partir du verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminerais les hommes et les bêtes, le verset 14, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Qui sont ces trois hommes? Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Voilà ce que Dieu dit de Job. Il fait partie de ces trois hommes-là que Dieu cite comme des justes exemplaires. Noé, Daniel, Job. Oui, être intègre ou l'intégrité est une valeur très importante aux yeux de Dieu. J'ai cherché de la définition de ce mot intègre dans les dictionnaires et j'ai trouvé ceci. Le mot intègre signifie être irréprochable, juste. C'est le caractère de celui qui marche selon la loi de Dieu. Voilà être intègre. Être irresponsable, juste et avoir ce caractère de celui qui marche selon la loi de Dieu. Et c'est ce que Job avait. Ce que Dieu recherche en nous, mes bien-aimés, c'est la fidélité, c'est la justice, la droiture. Cela revient à dire, Dieu recherche des hommes intègres, des hommes irresponsables, des hommes, pardon, irréprochables, pardon. Vous savez, le monde vous apprécie beaucoup parce que vous êtes beau, vous êtes peut-être riche, vous avez une belle silhouette, ou vous avez un bon travail, ou parce que vous vous habillez bien. Voilà ce que le monde regarde. Vous avez une grande famille. Le monde regarde ça. Mais Dieu vous regarde, Dieu nous regarde avec un point de vue différent de ce que les hommes regardent en nous. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu a un regard différent quand il nous regarde. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et Philippiens 2, verset 14, dit ceci. La Bible nous dit, Philippiens 2, 14, « Faites toutes choses sans murmure et hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux pardon, dans le monde. » Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que nous devons être dans ce monde, dans cette génération perverse et corrompue. Si Dieu pouvait fixer son regard sur chacun de nous, en commençant par moi-même, si Dieu pouvait fixer son regard, que dira-t-il de toi? Que dira-t-il de moi? Quelle description Dieu fera de toi? Quelle description Dieu fera de moi? Dieu a fait la description de Job, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Qu'est-ce que Dieu dira de toi? Que chacun puisse se poser cette question dans son cœur. Le deuxième point, Dieu connaît les intentions de Satan. Vous savez, quand nous passons par des moments difficiles à cause de notre obéissance, nous pouvons être certains, sûrs et certains, que Dieu est au courant de toutes choses. Que Dieu est au courant de toutes choses. Job, pendant sa souffrance, n'avait la moindre idée des raisons pour lesquelles tous ces malheurs s'abattaient sur lui. Mais Dieu savait toutes choses. Job ne savait pas, mais Dieu savait toutes choses. Job n'a pas compris le pourquoi de sa souffrance. Sa femme non plus. Ses amis non plus. D'ailleurs, sa femme lui a donné des mauvais conseils. Ses amis, ils se sont même retournés de lui. On lui a même dit, maudit Dieu et meurt. Parce que tous ce monde-là, la raison de Job, la raison du malheur, de la souffrance de Job, était restée inconnue à leurs yeux. Personne ne savait pourquoi Job souffrait, en commençant par lui-même Job. Nous aussi, nous sommes toujours prêts, surtout maintenant, nous sommes toujours prêts à chercher une raison à nos souffrances. Nous voulons toujours mettre un nom à nos épreuves, un nom à nos souffrances. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Ah, c'est parce que nous cherchons toujours des raisons, mais nous n'avons parfois aucune explication. Des fois, et c'est fréquemment, souvent, nous n'avons aucune explication. Mais à partir du verset 6, la Bible nous révèle ce qui s'est passé au ciel concernant Job. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Job, il vit sur terre tranquillement, il était totalement inconscient des événements qui se déroulaient au ciel. Des événements que Job ne pouvait ni entendre, ni voir. Il n'avait aucune idée de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est passé en son sujet. Tout ce qui se disait en son sujet. On parle de toi, mais toi-même, tu n'es pas au courant. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Job vit tranquillement, mais là-haut, on parle de lui. Et lui ne connaît rien du tout. Il n'est pas informé. C'est ce qui s'est passé. Dans la Bible, Satan est appelé par plusieurs noms. Il y a plusieurs noms qu'on utilise pour désigner Satan. On l'appelle accusateur de frères, on l'appelle adversaire, on l'appelle le tentateur, et tant d'autres mots. Et chaque mot, chaque nom de Satan révèle son caractère. Mais ici, au verset 9, qu'est-ce qui se passe au ciel? À l'insu de Job, Satan accuse Job. Mais Satan accuse non seulement Job, mais il accuse également Dieu. Il accuse Job en disant, nous l'avons lu au verset 9, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ça voudrait dire, c'est pas pour rien que Job est fidèle. C'est par intérêt. C'est par intérêt. Parce que cette adoration, cette crainte qu'il a de toi ne vient pas de son cœur. C'est d'une manière désintéressée. Parce que tu l'as béni, parce que tu lui as donné des richesses. C'est pour cela. Il est intègre. Il n'y a pas autre chose. Et des fois, dans notre vie, on voit, moi je parle toujours de mes petits neveux et mes petites nièces. À chaque fois, quand il y a des cadeaux, mais faut voir. Ah, tonton, dès que j'arrive, ils sont même prêts à enlever mes chaussures. Hein. Ah, tonton, il y a une poussière sur ta veste. Par intérêt, parce qu'ils savent que tonton, quand il arrive là-bas, il y a toujours des petits cadeaux. Et c'est ce que Satan dit à Dieu. Que Job est intègre, est fidèle, est juste. Oh, t'inquiète, c'est par intérêt. C'est par intérêt. Et plus loin, nous verrons qu'il dira, si tu enlèves là, c'est fini. Mes petits neveux, le jour où j'apporterai plus de bonbons, de chocolats, de cadeaux, c'est fini. Hein? Ils ne viendront plus me faire la fête. Hein? Et à peu près ce que Satan dit à Dieu. C'est d'une manière désintéressée qu'il te craint parce qu'il est riche. Satan accuse également Dieu. Il dit à Dieu, mais c'est de ta faute, Dieu. C'est de ta faute. Nous le voyons verset 10. C'est de ta faute. Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa famille et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais oui, c'est de ta faute. Tu lui as donné la richesse, tout ça. Voilà. Et maintenant tu dis qu'il est... Il est intègre, il est droit, il est... Non, c'est par intérêt. Voilà ce que Dieu, Satan fait. Il accuse non seulement Job, mais il accuse également Dieu. Il est important, frères et sœurs, de comprendre cette question posée par Satan à Dieu. Cette question, au verset 10, il accuse Dieu. Satan remet en question la confiance que Dieu met sur son serviteur Job. C'est ça que ça voudrait dire. Il remet en question la confiance que Dieu a sur Job. Il dit, tu as confiance en lui? Parce qu'il est intègre. Non. Il ne faut pas avoir confiance en lui parce qu'il est riche, parce que tu l'as béni. C'est ce que ça voudrait dire. Là, nous voyons que le diable, Satan, il est dans son rôle vraiment d'accusateur, comme dit la Bible. C'est lui qui accuse les frères devant Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, chapitre 10. C'est vraiment l'accusateur, parce que c'est lui qui accuse, qui nous accuse devant Dieu. Même aujourd'hui, ses méthodes n'ont pas changé. Il expose nos péchés, nos faiblesses devant Dieu. Il nous accuse jour et nuit devant Dieu. Mais face à toutes ces accusations, nous avons un avocat. Un avocat qui plaide en notre faveur devant Dieu. Et son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Nous avons un avocat qui plaide en notre faveur, malgré les accusations de l'accusateur. Mais Christ est là pour nous défendre. Dieu connaît les intentions de l'accusateur et la raison de sa présence devant lui. Dieu sait que Satan est venu pour accuser Job car il cherche à le détruire. Dieu savait tout. Il dit, je connais la raison. Il est là seulement pour non seulement accuser, mais il cherche à détruire les serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous semblons toujours oublier que Dieu est avec nous et qu'il sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Nous ne devons pas l'oublier. Enlevons cette pensée de foi qui traverse notre esprit, qui nous pousse peut-être à oublier que Dieu n'est pas avec toi. Si vous allez dans des hôpitaux, dans des endroits très 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 difficiles, des fois quand nous allons prier pour des malades ou rendre des visites à des amis qui sont à l'hôpital, on entend souvent, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement la souffrance est grande dans la vie de la personne. Et la personne s'écrie dans sa prière, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné Job. Dieu était toujours avec Job. Même si lui-même Job ne connaissait pas la raison de ses souffrances. Mais Dieu savait tout. Dieu savait tout. Le troisième point, c'est Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. La seule personne qui contrôle totalement tous les événements, du début jusqu'à la fin, c'est Dieu. C'est Dieu. Là, nous avons seulement lu le premier chapitre, versets 1 à 12, mais si nous continuons de lire tous les livres de Job jusqu'à la fin, la seule personne qui contrôle tous les événements, la seule personne qui contrôle, qui a un contrôle sur tout là, c'est Dieu. Dieu exerce un contrôle souverain sur chaque événement à travers la vie de Job. Un contrôle souverain. Remarquons une chose. Au verset 7. Le verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'est Dieu qui parle en premier, c'est pas Satan. Bien qu'il est l'accusateur, bien qu'il est venu pour accuser, mais Dieu a le contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui parle en premier. C'est Dieu qui ouvre le dialogue, je peux dire. C'est Dieu qui ouvre le dialogue. Et c'est toujours Dieu qui cite le nom de Job en premier, pas Satan. Le verset 7 nous le dit. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et d'y m'y promener. Le verset 8 dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui agit en premier, c'est Dieu qui parle en premier, c'est Dieu qui ouvre le dialogue en premier, et c'est Dieu qui cite le nom de Job en premier. Deuxième chose que nous pouvons remarquer, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. La deuxième chose, Dieu donne son accord d'atteindre Job. Mais Dieu est Dieu. Dieu fixe les limites. Dieu fixe les limites. Les mamans le savent, ils autorisent les enfants. Bon, d'accord, ok, tu peux sortir avec tes amis, mais attention, tu reviens avant 22 heures. Pourquoi? Tu as le contrôle sur ton enfant. Et l'enfant reviendra aussi avant 22 heures. Dieu autorise, Dieu donne son accord, mais Dieu fixe les limites. Le verset 12 dit, l'Éternel dit, voici tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Dieu permet à l'ennemi d'atteindre Job, mais il fixe les limites au-delà desquelles il ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Dieu a établi les limites de nos épreuves. Il nous manque juste de savoir quelles sont ces limites. Dieu a établi des limites au-delà desquelles le diable ne peut pas aller, même dans nos vies. Rien ne se passe dans notre vie qui ne fait pas partie du plan parfait de Dieu. Rien ne s'est passé aussi dans la vie de Job, qui ne faisait pas partie du plan parfait de Dieu. Tout ce que Dieu permet dans notre vie est pour notre bien et pour sa gloire. Tout ce que Dieu a permis sur la vie de Job était pour son bien et pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Pardon. Voilà ce que le Seigneur dit. Dieu, il permet certaines choses dans nos vies et c'est pour sa gloire. Et Dieu, il a le contrôle sur toutes choses. Il fixe des limites. Il fixe des limites. L'accusateur veut changer, le diable veut changer le bien en mal. Mais Dieu a plus de pouvoir pour transformer le mal en bien. Satan pensait qu'il allait vraiment faire du mal à Job, mais Dieu a transformé cela en bien. Parce que plus loin, à la fin, vous verrez que Job a été rétabli. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Nous avons cet encouragement que Dieu, dans son amour, fait tout concourir pour notre bien. Et si nous lisons dans Romains chapitre 8 et le verset 28, voici ce que la Bible nous dit. Romains 8, chapitre 8 et le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Job aimait Dieu et l'adorait pour ce qu'il est et non pour ses richesses. Job n'a pas compris durant sa vie terrestre jusqu'à sa mort. Job est mort sans comprendre ce qui s'est passé, sans comprendre pourquoi il a souffert. Vous savez, nous nous posons beaucoup de questions dans nos vies. Hein. Mais toutes les questions qu'on se pose ici sur Terre, nous n'aurons jamais de réponse à certaines questions. Nous ne comprendrons jamais certaines choses. C'est une fois là-haut qu'on comprendra. Ah, en 2019, j'avais connu ça, ça, ça. Ah, la raison, c'était ça. C'est pour cela que le Seigneur avait permis cela. Mais en restant sur Terre, nous allons rester avec nos questions, certaines questions, sans réponse. Job est resté toute sa vie terrestre sans réponse, sans connaître le pourquoi de sa souffrance. Oui, Job n'a pas compris durant sa vie les raisons pour lesquelles il traversa les moments difficiles. Mais malgré cela, il resta fidèle à son Dieu. Nous n'aurons pas toutes les réponses, comme on a dit, à nos questions ici-bas. Nous devrions simplement continuer à marcher avec le Seigneur malgré les épreuves. Frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur. Car la Bible dit, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Gardons donc notre foi, gardons donc la foi malgré les épreuves. Que le Seigneur bénisse sa parole.